Les séminaires du Collège de France.
Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Éric Vassereau de l'Institut de mathématiques Jussieu, qui va parler des petits groupes quantiques et des fibres de Springer affines.
Ok, merci. Donc, ce dont je parlais, c'est un travail en commun avec Kavnikov, Pablo Buxeda Alvarez et Pelchan. Ok, donc le but ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les petits groupes quantiques et de comprendre quel est leur centre. Alors, avant de venir d'en venir au point central du sujet, je vais d'abord introduire un peu les objets. Alors, on va partir de G, un groupe algébrique affine, donc sur C, et on va prendre G Tchetch, ça va être le groupe dual. Donc, on va prendre des notations, disons, un peu standard. T, ça va être un tore maximal, T-Tchetch, un tore maximal dans G-Tchetch. On va prendre les groupes des caractères. Lambda, ça va être le groupe des caractères de T. Et Lambda-Tchetch, le groupe des caractères de T-Tchetch. Et à l'intérieur, on a le réseau engendré par les racines. Alors ici, c'est Z-Phi, et là, c'est Z-Tchetch. Puis ensuite, on a les algèbres de Li. Donc, Li de G. Et G de Tchetch. C'est Li de G de Tchetch. Et même chose pour les tores. Ok. Alors d'abord, avant de parler de groupe quantique, je voudrais en dire le minimum, mais d'abord, ce qui est important, ce qui est utile, c'est de voir l'analogue. Donc, c'est d'abord de regarder un petit peu la situation en caractéristiques positives. Donc, je prends P, un corps algébrique de caractéristiques positives. Et je suppose algébriquement clos. Et donc, on a un analogue de tout ça sur K. Donc, supposons que je vais travailler, disons, sur le groupe G-Tchetch. Donc supposons qu'il soit défini sur K. Donc à ce groupe, on peut associer un autre, ce qu'on appelle, sur l'anneau des fonctions de G-Tchetch, on a un automorphisme qui est le Frobenius, et on peut regarder le noyau du Frobenius. Alors le noyau du Frobenius, je le verrai cette fois-ci comme un morphisme de groupe, donc c'est ce que je vais noter, parce qu'on note souvent G1, donc G1-Tchetch. Donc c'est ce qu'on appelle un groupe infinitésimal, dans G. Donc ça veut dire que l'algèbre de fonction est de dimension finie. Et donc l'algèbre de fonction K de G1. Donc si on veut comprendre la catégorie de représentation de G1 Tchetch, donc on passe par le dual de l'algèbre de fonction. Et donc ça, c'est une algèbre de Hopf, donc le dual aussi. Ce que je vais noter U de G Tchetch avec un petit u. Donc c'est une algèbre de dimension finie. Et essentiellement à cause de la formule du produit de Steinberg, celle qui a été énoncée juste avant, comprendre les représentations simples de cette algèbre ou de G-Tchetch, c'est à peu près la même question. Donc ça, c'est un objet qui est important du point de vue de la théorie des représentations de G-Tchetch. Mais si on veut comprendre cette algèbre, alors là, on la voit comme une... Donc on a l'algèbre enveloppante de G-Tchetch, qu'on va noter comme ça. Donc la construction que j'ai donnée, l'anneau des fonctions de G1, G1 c'est un sous-groupe de G, donc l'anneau des fonctions c'est un quotient, et donc K de G1 Tchetch, ça va être voyons voir que je ne m'embrouille pas. Disons, ce que l'on a, c'est une suite, ce qui m'intéresse, c'est une suite comme ça. Je prends l'anneau des fonctions de G-Tchetch, je prends le dual. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'algèbre des distributions de G-Tchetch. Toutes les formes linéaires qui sont supportées sur l'identité de G-Tchetch. Et l'algèbre ici, de dimension finie que j'ai introduite ici, s'identifie à une sous-algèbre le jeu de tchatch, et c'est un quotient de l'algèbre enveloppante. Donc ça, ça découle de la construction. Et une autre chose à savoir en caractéristique positive, c'est un peu à quoi ressemble le centre de cet algèbre-là, Z de Hitchett, G de Hitchett. Alors, quand on veut regarder l'algèbre enveloppante en caractéristique 0, le centre est donné par ce qu'on appelle l'isomorphisme Harishchandra, mais là, on est en caractéristique positive et le centre est plus gros. Donc, le centre, c'est une algèbre commutative, donc on peut regarder son spec. C'est ce qu'on appelle parfois la variété de Zassel-Mauss. Oui. Et elle se décompose comme un produit fibré. Donc il y a deux composantes, si on l'écrit, c'est... Donc là, on prend le dual de l'algèbre de Lie. Donc il faut mettre des châtres partout. Et donc on prend le quotient par l'action adjointe, le quotient catégorique, et on a un morphisme sur la version G-Tchatch 1, c'est-à-dire qu'on on tord l'action du... On voit ça comme une variété sur K, et on tord l'action de K linéaire de K par le Frobenius, G-Tchatch. Et ici, il y a le quotient par G-Tchatch dual. Il manque un duel. Voilà. De 1. Donc là, cette application ici, c'est le quotient catégorique. Et ici, c'est une application un peu plus compliquée. C'est une espèce de Frobenius. Donc je dirais. Donc le centre à cette structure-là, c'est un théorème de Mirkovitch et Rominin en 1999. Alors quand on s'intéresse au groupe quantique, donc, ce qui va nous intéresser, c'est le groupe quantique aux racines de l'unité. Donc, on a une construction un petit peu analogue à ce que j'ai résumé ici en caractéristique positive, mais en caractéristique zéro. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me prends un nombre complexe non nul, donc une racine primitive de l'unité. Zeta. Et à zeta, je vais associer trois algèbres. Donc il y a trois groupes quantiques qui correspondent un à l'algèbre enveloppante, un à l'algèbre de distribution, et entre les deux, il y a une petite algèbre qui correspond au noeud de Frobenius. Donc ici, c'est ce qu'on appelle U zeta. Donc c'est ce qu'on appelle le groupe quantique de Descartes-Chinicac. Ici, c'est ce qu'on appelle le petit groupe quantique. Et ici, c'est la forme... C'est le groupe quantique de Lustig. Alors l'idée c'est qu'il y a un groupe quantique. Donc ça, ce sont les groupes quantiques associés au groupe dual. Donc l'idée c'est qu'il y a un groupe quantique UQ de G-Tchatch qui est sur C de Q. Et on prend des formes entières et il y a différentes formes entières qui correspondent. Donc on choisit les formes entières. Z de Q moins 1, et après on spécialise Q aux racines de l'unité, et il y a deux différents choix pour les formes entières. Il y a la forme entière de Lustig qui donnera celle-là, et la forme entière de Descartes-Chinicac qui donne celle-là. Et celle-là, disons, en termes de forme entière, celle-là est plus grosse, donc il y a un morphisme canonique, mais quand on passe à Q égale zeta, l'injection canonique n'est plus injective, et on obtient ici ce genre de pseudomorphisme. Donc cette algèbre, c'est une algèbre de Hopf de dimension fini, exactement comme le petit ici. Ça, c'est une nageoire de Hopf. Dimension finie. Et donc, elle est importante d'abord pour comprendre la représentation du groupe quantique. Donc, ça, c'est, elle est importante pour les problèmes de théorie des représentations. Et il se trouve qu'elle est aussi importante en topologie parce que c'est lié à ce qu'on appelle les TQFT. Donc, il y a une théorie TQFT dite de Lubachenko qu'on lui l'applique à un tore vu comme une surface de dimension réelle 2. Ça, elle produit exactement le. Alors, le centre de. Ça produit le centre. Le centre de l'île de Zeta. Alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le centre. Et inconnu. Et donc, ce que je vais expliquer, c'est une conjecture qui donne une forme, une version géométrique de ce centre et qui fait intervenir les fibres de Springer affines. Ok, je pense que. Alors, je vais juste fixer un petit peu quelques notations. Encore. Donc, j'ai mes trois groupes quantiques. Je vais considérer des catégories de représentation. Donc, celle-là, c'est ce qu'on appelle les représentations. Donc, ce groupe quantique se comporte un petit peu comme une algèbre enveloppante. Donc, les représentations considérer des catégories de représentation qui sont graduées par le tore. Et donc, sur lequel le tore agit de façon semi-simple, à ce moment-là, vont être gradués par le groupe des caractères. Hein, puisque là, j'ai pris c'est le groupe quantique de G. Tchetch, hein, je rappelle. Donc là, ce sont les représentations, c'est la catégorie des représentations de dimension finie. Qui sont lambda Tchetch gradués. Et on peut faire la même chose donc si je fais zeta égale 1, a priori c'est le cas particulier où L égale 1, U de 1, donc c'est la même chose. Et il se trouve que dans ce cas-là, c'est la même chose que la représentation du groupe. C'est la représentation de l'algèbre enveloppante des dimensions finies qui sont graduées, donc c'est la même chose que la représentation rationnelle du groupe. Représentation rationnelle des dimensions finies. Et après, il y a la catégorie de représentation pour le petit groupe quantique. Et donc, on fait la même chose. Alors, il faut faire juste attention à une chose, c'est que ici, les représentations du groupe de dimension finie sont presque graduées. Donc, un poser question graduée, ce n'est pas grand-chose. Là, par contre, c'est plus important. Une représentation du petit groupe quantique n'est pas naturellement graduée. Fixer la graduation est quelque chose d'important. C'est une donnée en plus. Donc les représentations de dimension finie. Donc lambda Tchetch gradué. Ok. Alors, donc la première chose, on va s'intéresser au centre, et pour ça, on va comparer le centre, au moins au centre de cet algèbre-là. Il faut comprendre le lien entre les deux catégories de représentation. Alors, il y a un formalisme général. Le suivant. Supposons donc. Donc là, c'est une aparté. Supposons que Zetchess soit un groupe fini, juste pour cet exemple. Donc on a à ce moment-là, on peut regarder les catégories, disons. Alors les catégories, on peut regarder les catégories, l'ensemble des catégories C linéaires, Donc ce sont des catégories additives, telles que les hommes sont des séries vectorielles. C'est linéaire. Donc on suppose que ce sont des catégories tensorielles, c'est-à-dire qu'il y a un produit tensoriel, vérifions certains axiomes. Et on suppose que la catégorie de Reb de Jetschetsch, qui est aussi une catégorie tensorielle, agisse par produit tensoriel dessus. Donc on dit avec action de... Ça. Et on peut regarder l'ensemble des catégories. Même chose, c'est linéaire, tensoriel, et avec action du groupe. Tout simplement, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un élément du groupe, ici j'ai un endofoncteur de la catégorie qui est inversible et ces endofoncteurs satisfont les relations de composition qu'on imagine. Et alors il y a des bijections entre les deux, il y a des équivalences entre ces catégories de catégories. Donc quand on a une catégorie ici, donc d'abord là, dans ce sens-là, à chaque fois que j'ai une catégorie avec une action de Jetschetsch, je peux prendre les objets qui sont fixes par l'action, donc c'est ce qu'on appelle les objets g-équivariants. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'équivariantisation. Et il y a une équivalence de catégorie dans l'autre sens. Donc, D de Jetschetsch. Alors. Pardon ? Parce que l'équivalence que j'ai écrite, elle marche pour les groupes finis. Alors, ce que je vais expliquer, c'est qu'après, dans le cas des groupes quantiques, on a l'analogue, mais. Ici, ces deux catégories, on peut passer de l'une à l'autre par des équivalences de catégories. Le fait que ce que j'écrive soit deux équivalences de catégories inverses l'une de l'autre, c'est a priori pour les groupes finis. D'accord ? Quoi ? Non, un groupe discret. Un groupe discret. Tu as un groupe fini, puis tu prends sa catégorie de représentation avec le produit tensoriel, et tu supposes que ça agit par produit tensoriel sur une catégorie. Et ici. Donc, et là, il y a un foncteur. Alors, on peut décrire cette catégorie en termes, en utilisant le langage de produit tensoriel de catégorie. Je vais juste l'écrire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est ça, cette catégorie, c'est ça. Donc, on a la catégorie des espaces vectoriels, la catégorie de représentation. Ici, de là vers là, on a le foncteur d'oubli de l'action. Donc, à chaque fois qu'on a une représentation, on associe l'espace vectoriel sous-jacent. Et donc, cette catégorie est là. Agit sur celle-là par produit tensoriel, et elle agit aussi sur celle-là par hypothèse, et il y a une notion de produit tensoriel de catégorie, et c'est ce que l'on obtient c'est le foncteur quasi inverse. Alors, je ne vais pas en dire plus sur ça, mais il se trouve qu'il y a un analogue dans le cas des groupes quantiques, c'est ça qui nous intéresse, qui relie les catégories de représentation ici. Donc, à savoir, si je regarde la catégorie de représentation du petit groupe quantique, donc REP, c'est là, que j'ai défini tout à l'heure, et c'est pas dur de voir qu'il y a une action de Jetschetsch dessus. Il y a une action, AG. Une action du groupe, même chose, à chaque fois que j'ai un élément du groupe, je peux faire agir essentiellement par une conjugaison. Donc ça marche comme en caractéristique positive. Cette action, c'est en gros l'action adjointe. On compose l'action par l'action adjointe de Jetschetsch. Et quand je prends le gros groupe quantique, U de zeta, la forme de Lustig, il y a une action aussi qui vient de ce qu'on appelle le Frobenius, qui est une action de Reb de Jetschetsch. Alors je dis que Reb de Jetschetsch, c'est la même chose que les représentations de l'algèbre enveloppante, c'est ce que j'ai noté U1, et il y a un morphisme d'algèbre, ce qu'on appelle le Frobenius quantique de Lustig, qui va du zeta dans U1. Donc quand j'ai une représentation ici, je la vois comme une représentation là, je la tire à une représentation de UZ, et je fais agir par pur produit tensoriel. Ça fait une action. Et ces catégories se correspondent de la même façon qu'ici. À savoir, en particulier. Rep de rep de useta. Les objets G cohérents ici, c'est cette catégorie-là, c'est isomorphe, c'est équivalente à celle-là. Et il y a aussi un analogue de l'autre construction. Donc, le fait qu'il y ait ces relations entre les catégories entraîne qu'il y ait des relations sur le centre. C'est ça qui nous intéresse. En particulier, on a ce genre de relations. Si je le prends le centre de cette algèbre, l'algèbre est dimension finie, ce son centre, c'est la même chose que le centre de la catégorie. Et donc, si je fais les invariants, ça s'identifie au centre du U2zeta inter U2zeta. U2zeta, c'était une sous-algèbre de l'autre. Je intersecte le gros centre avec la petite algèbre, ce que j'obtiens, c'est les invariants. Donc ça, c'est une espèce, c'est plus ou moins une conséquence de ce genre de formalisme. Donc ce que l'on va construire, en fait, en termes de cohomologie de fibres de Springer, c'est ça. Et pour ça, on va le plonger dans le terme de droite. C'est ça qui compte pour nous. Alors, une dernière chose. Donc, l'algèbre U de zeta est de dimension finie. Elle n'est pas indécomposable et on peut la décomposer comme une somme d'algèbres indécomposables de dimension finie. On décompose le centre en somme d'idéaux irréductibles. Et on connaît comment sont paramétrés tous les facteurs, ce qu'on appelle les blocs. Et donc, ils sont paramétrés par oméga, qui est un élément dans lambda chat sur W de L affine. Donc, je vais juste dire ce que c'est. Donc, le groupe de Weil. L, c'était l'ordre de la racine de l'unité. Donc, c'est W, c'est le groupe de Weil de G chat ou de G, c'est la même chose. Et ici, je tensorise par... Je prends le réseau des fichages, des coracines, et L, c'est que je ne fais pas le produit fibré, le produit semi-direct avec le réseau, mais je multiplie par un L le réseau. Et W agit naturellement dessus, je prends le produit fibré. Donc ça, c'est un groupe qui va agir sur lambda tchetch de façon naturelle. Ça agit par l'action du groupe de Weil, et ça, essentiellement, une translation. Et à l'intérieur, en particulier, il y a ce qu'on appelle le bloc principal. Donc on prend une orbite qui est maximale, où le sous-groupe d'isotropie est aussi petit que possible. On en choisit une, ça ne change pas beaucoup, c'est le bloc principal. Alors ce qui nous a... le point de départ, c'est une conjecture, qui est toujours une conjecture. Donc la conjecture est due à, sous cette forme, à Lachowska et qui. Donc cette conjecture est en type A. Donc ça veut dire G ou G-Chetch, c'est GL, le couple linéaire ou SL. Et on va prendre H, c'est le nombre de Coxeter. Et là, donc c'est une formule combinatoire sur la dimension de Z du centre de Uzeta. Et donc la formule, c'est ici H plus 1 L H plus 1 L sur L sur H. Et même chose sur le bloc principal, une autre conjecture. Donc c'est H plus 1 à la puissance H moins 1. Alors, il se trouve que quand on connaît un peu la combinatoire de la cohomologie des fibres de Springer affines, ces nombres-là correspondent à la dimension de la cohomologie de certaines fibres de Springer affines en type A. Quoi ? Attends, je n'ai pas compris. Là, c'est H plus 1, là, c'est H moins 1.
La formule dimension de...
Qu'est-ce qui est... Que c'est un entier, oui. Oui, ce terme-là divise le truc. Si. Tu écris la formule du... Si, ça, il n'y a pas de... C'est sûr, quoi. Il n'y a pas de problème. OK. OK, alors ce que je vais donner, c'est une conjecture à la fois pour les deux situations, pour le centre, mais en type général, pour le centre du bloc principal et puis le centre de tout le petit groupe quantique. Alors j'ai besoin encore d'un petit peu de notation. Donc T, c'était mon algèbre de Lie. Donc, alors l'idée, c'est que je prends le groupe quantique, je rappelle, qui est le groupe quantique de type G-Tchetch. Et maintenant, je vais relier ça à la géométrie des fibres de Springer-Affine de type G. Donc, je prends le dual de Langlands. Des fibres de Springer. C'est ça que. Donc, je considère l'algèbre du Lie de G et le tore maximal dedans. Je prends sur R, je prends la forme réelle. Et à l'intérieur de R, on définit ce qu'on appelle l'alcôve dominante. Donc, l'idée, c'est que le groupe de Weyl affine, lambda tchetch, je vais prendre WL. Affine, agit naturellement sur TR et ça c'est un domaine fondamental pour l'action. Pour l'action, qui est une description explicite en termes des inégalités avec que je ne vais pas donner. Donc en particulier le quotient ici, donc c'est s'identifie canoniquement à l'intersection de l'alcôve avec le réseau des caractères en particulier. Et à chaque point, donc l'alcôve dominante, c'est un sous-ensemble borné de cet espace vectoriel du tore sur R qui est délimité par des hyperplans et quand on prend un point à l'intérieur, on regarde le nombre d'hyperplans sur lequel il se situe et on peut lui associer à ce moment-là un certain paraorique en fonction. Donc, à chaque point oméga de A bar, on peut associer P de oméga, donc on va dire dans G de K. K, c'est ici T, c'est une variable formelle, c'est pas la même chose. Et donc là, c'est le paraoïque. Donc tout simplement, quand j'ai un point qui est sur certains hyperplans, je prends le paraoïque qui est paramétré. On peut associer des paraoïques à certains sous-ensembles des racines simples affines, et je prends le sous-ensemble des racines simples correspondant aux hyperplans sur lesquels se situe oméga. Donc par exemple, si oméga est un point générique, c'est juste un Iwori. Donc si oméga est générique, dans la partie verte, et oméga c'est un Iwori. En particulier. Et je peux associer à ce moment-là la variété de drapeau partielle. Je vais dire affine, c'est la variété de drapeau affine partielle. Ok, alors sur cette variété, donc il y a le groupe multiplicatif qui agit naturellement sur le corps, Tout simplement, il dilate l'uniformisante, multiplié par un nombre complexe Z. Et du coup, cette action se transporte à une action sur la variété de drapeau. Et en particulier, donc un cas particulier, c'est la Grassmannienne. C'est dans le cas où... c'est un cas particulier de... excusez-moi. Donc on prend... Un cas particulier, c'est ici, c'est on prend le compact maximal. Donc P de oméga égale G de... Donc on va dire où... G de O, donc à ce moment-là, donc FL oméga, c'est ce qu'on appelle la Grassmannienne affine, que je note creux. Et donc il y a une action du groupe multiplicatif C étoile par ce qu'on appelle, ce qu'on dit souvent par dilatation des boucles, ou rotation de boucles. Alors la première chose, c'est que si on prend à l'intérieur des étoiles, on considère le groupe des racines de l'unité, ML. C'est un groupe fini, on peut regarder les points fixes sur la Grassmannienne. Et alors il y a un petit lemme. Greu de mu L. Donc ça a plusieurs composantes connexes, et les composantes connexes, ce sont des variétés drapeaux partielles. Donc c'est une union disjointe de composantes connexes qui sont paramétrées par... Alors là, il faut utiliser l'action du groupe, ce qu'on appelle étendu, je vais juste dire après ce que c'est. Oméga. Donc, le groupe, ça c'est le groupe de Weyl affine dilaté de L qui est étendu. Donc c'est le produit ici par L lambda oméga tchèche. Donc il contient le groupe de L affine. Et ici, l'indice L, c'est parce que quand je mets FL, indice L oméga, c'est la même chose que FL, mais ici, j'ai remplacé partout la variable uniformisante par T puissance L. Donc, ou avec T remplacé par T puissance L. Donc ça, c'est un espace homogène sous l'action de G de K. Et ça, c'est un espace homogène sous l'action de G de KL, où KL, c'est C de T puissance L. En particulier. Et comme ça, c'est un sous-groupe de ça, c'est pas dur de voir que G de KL agit sur les points fixes, c'est la décomposition en orbite. D'accord. Ok. Ok, maintenant, le dernier ingrédient, c'est les fibres de Springer. Donc je vais me prendre un élément, donc je prends l'algèbre de Lie, mais à coefficient sur mon corps K. Et à l'intérieur dedans, à l'intérieur, je regarde l'ensemble des éléments qui sont réguliers semi-simples. Sur K. D'accord. Et à l'intérieur de ça, on va considérer un élément d'une forme très particulière. On va l'appeler gamma. On va dire gamma, ça va être S tenseur T. T, c'est l'uniformisante, et S, c'est un élément dans G qui est semi-simple, régulier. Donc cet élément, il est ce qu'on dit compact, c'est-à-dire qu'il est conjugué à un élément de G tenseur O. Et on va regarder ce qu'on appelle les fibres de Springer. Alors on va prendre une version particulière des fibres de Springer. Donc ça, c'est un fermé à l'intérieur de FL de oméga, pour chaque oméga. Et c'est ce qu'on appelle la fibre de Spachelstein. C'est-à-dire que quand la variété, une variété de drapeau complète Il n'y a qu'une seule façon de prendre une fibre de Springer, mais quand la variété est partielle, il y a deux façons de la prendre. Donc ici, c'est l'ensemble des éléments là, donc c'est des G de P de oméga, où G est dans G de K. Et on demande que lorsque je fais agir par l'action adjointe sur l'élément gamma, il y a deux solutions. Ou bien je dis que j'appartiens à l'algèbre de Lie de P de oméga, ou bien au radical à l'algèbre de Lie du radical pro-unipotent. Donc c'est la deuxième solution. Donc ici, c'est le radical de P de oméga. P de oméga, c'est Lie de P de oméga. Donc ça, en général, c'est un schéma particulier de dimension finie. Il est localement de type fini, mais qui n'est pas de type fini. Et donc, je peux regarder ce qui se passe quand on fait cette opération. Donc, ça veut dire, étant donné mon élément L, qui est l'ordre de la racine de unité, je peux considérer gamma L, qui est la même chose S tenseur T puissance L. Donc, tout à l'heure, gamma, c'est le gamma, rien de plus. D'accord ? Et donc, ce que je peux regarder, c'est le LED de tout à l'heure entraîne, comme on fait au niveau des fibres de Springer, que j'ai de gamma L oméga zeta. Donc, c'est l'union disjointe. Même chose, mais sur le même ensemble, des fibres de Springer correspondantes. Donc c'était de special type oméga gamma L. On a ça. Et ça, quitte à transformer T puissance L en T, ça c'est la même chose que 0F, comme un schéma de flag de 1. Je n'écris pas quand il y a un 1 de gamma. D'accord. Ok. Ok, donc on peut énoncer maintenant à la fois le théorème et la conjecture. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc c'est la chose, c'est qu'on a la chose suivante. Donc je prends la cohomologie de. Donc j'applique cette construction à la Grassmannienne affine, qui est un cas particulier de variété de drapeau affine partielle. Je prends les points fixes par rotation, zeta. C'est donc ce genre de. Ici, voilà. Donc c'est le terme de gauche ici. Gamma L. Et dessus, je vais expliquer, il y a une action du groupe de Weyl affine étendue. Et donc, la conjecture, c'est que. Alors, disons, ce que l'on a démontré, c'est que c'est une algèbre. Je prends la structure d'algèbre de la cohomologie, qui est préservée par les invariants. Et d'abord, ça se plonge dans le centre du petit groupe quantique, les G invariants, par G-Tchetch. Et ce que l'on conjecture, c'est que c'est en fait un isomorphisme. Et on a le même chose, donc en changeant un petit peu légèrement le choix des invariants que l'on prend. Donc ça s'inclut dans donc de 0 GR zeta gamma L. Donc, à l'intérieur du groupe de Weyl étendu, il y a le réseau des co-caractères dilatés, L de lambda Tchetch. Et ça, même chose, ça va aller dans les. Donc, les invariants ici par Tchetch. Et ici, c'est clairement inclus.
C'est plus l'algèbre, mais pas le code produit.
Pardon ?
Le code
Oui, le coproduit de base, rien de plus. Et là, le diagramme commute, évidemment. Oui, oui. Ben, si, si, c'est commutatif, c'est en deux repères, si. Parce que, bon, je vais dire des choses dessus. L'élément est très particulier, l'élément gamma L. Alors, il est homogène, donc la cohomologie est pure, mais en plus, il est plus qu'homogène, parce qu'il est... Et dans ce cas-là, la cohomologie, la variété admet une partition en cellules affines, et on sait que la cohomologie n'est qu'en degré pair. Quoi. Ok. Alors, il faut que j'explique deux, trois choses en plus. Alors, les flashs, non. Je vais essayer de donner quelques arguments, mais j'ai pas le temps de tout expliquer. Mais je vais en donner. Mais d'abord, j'explique un peu le diagramme, et puis je vais donner quelques arguments sur la construction des flashs. Alors donc, mais donc juste. Avant, je vais juste dire quelques remarques sur la géométrie de ces fibres affines, d'accord. Alors, les fibres ici, comme je les ai choisies, l'élément est dans le tore, donc c'est très facile de voir ces éléments. Les gamma que j'ai construits sont centralisés par le tore T, par construction. Et donc, ça entraîne que le tore T, il agit sur toutes ces fibres-là, gamma 2. Alors, il y a aussi une version, bon, je la donnerai tout à l'heure, il y a une version pour le bloc principal. Donc, essentiellement, tout se ramène à faire le calcul pour le bloc principal. Après, le reste, c'est plus ou moins facile. Et donc, il y a un petit peu plus, il y a même aussi l'action par rotation. Bon, donc, tout ça, ça agit sur ces variétés. Et les points fixes sont isolés déjà dans ce cas-là. Donc, ici, les points fixes gamma d'oméga. C'est un ensemble discret. Et bon, qui est en bijection avec le groupe de Weyl étendu. Là, je n'ai pas écrit les dilatations sur. Et ici, on met le stabilisateur d'un point particulier, bon, qui vient de la description du paraaurique. Donc, c'est le groupe de. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est le groupe de Weyl, le sous-groupe associé au paraaurique en question. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ici, la phalle gamma, comme un schéma, la cohomologie est pure, c'est parce que, car gamma est homogène, on dit que c'est un élément elliptique homogène. Ça veut dire essentiellement que ici, la partie T, c'est censé être un élément dans le corps des fractions, mais il n'y a qu'un seul exposant, qui est soit 1, soit L, suivant les cas. Il ne change pas avec. Donc c'est pure homogène. Et dans ce cas-là, il y a un pavage par des cellules affines. Et les cellules affines, c'est juste les intersections de ça avec les orbites de Liouari. Pavage par des cellules affines qui sont toutes de la forme. Je prends mon sous-groupe d'Iwaori, IW. Je prends un point fixe, les points fixes sont en bijection avec ça, donc un point fixe, en gros, il est paramétré par un élément du groupe de Weyl, à quelque chose près, et donc je vais le noter delta de I, ça va être le Iwaori ici, et donc la delta, c'est delta de W, pour W1 cosette ici, c'est le point fixe correspondant là, et ça, c'est donc, je fais agir ça, c'est un sous-ensemble dans la variété de drapeau FL oméga, et je l'intersecte avec FL gamma d'oméga. Ça, c'est un espace vectoriel et la fibre est une union disjointe de tout cela. Et enfin, quand je prends, si je regarde, ça, c'est les points fixes, on peut les voir comme les orbites du tore de dimension 0. Si on regarde les orbites du tore de dimension 1, qui relient, par exemple, deux points fixes, il y en a un nombre fini. Un nombre fini. de T orbite de dimension 1. Dimension 1 entre deux points fixes. Donc tout ça, ça entraîne qu'il y a des façons de calculer la cohomologie, ce qu'on appelle la méthode de GKM, Goreski-Kocis-McPherson. Bon, c'est pas vraiment dû à eux, mais le résultat demeure. Donc, c'est la terminologie usuelle. Donc GKM. Donc ça entraîne que la cohomologie de cet objet-là donc 0 FL gamma oméga donc ça se on fait la restriction au la cohomologie covariante on fait la restriction au point fixe et donc ça se plonge dans l'espace des fonctions des points fixes donc ici c'est j'ai dit W oméga dans la cohomologie du point. Donc ici, ça pour moi, c'est la cohomologie du point, c'est juste donc la G du réseau des racines. Donc ça, c'est une certaine importance. Ok. Et avant d'expliquer un tout petit peu la méthode, je voudrais juste dire aussi que on a une formule pour calculer le terme de gauche. Donc il y a des formules explicites qui en fait généralisent les formules de Key et de Lachowska et qui viennent justement de cette théorie de GKM qui permet de calculer. Donc je vais juste donner alors donc je vais Alors, si on prend donc la formule, donc c'est la formule suivante, donc H point de G0GR gamma L zeta, et si on prend les invariants, et donc c'est 1 sur le cardinal du groupe de Weyl, et c'est un produit de 1 jusqu'au rang du groupe, et ici ça va être H plus 1 L moins H plus EI à la puissance non, rien, et les EI ce sont les c'est ce qu'on appelle les exposants de W. Il y a un entier par racine simple, ce sont les dimensions de l'anneau des invariants dimensions graduées. Ok, donc alors maintenant je vais expliquer un tout petit peu et donner quelques indications sur la façon dont ça se démontre. Pardon, Révette ? La conjecture, c'est la partie en rouge. C'est la surjectivité.
Ça devient un isomorphisme, ça.
Oui, du coup, ça dirait que c'est un isomorphisme. On sait juste qu'il y a une injection et on connaît le terme de gauche. Et bon, la surjectivité est connue, je pense, pour SL4, ce genre de. Et puis, déjà au-delà de SL4, c'est difficile. Hein. Et pour SL4 et B2, je crois. C'est connu. Alors, comme j'ai indiqué, donc, si on veut démontrer ça, en fait, il suffit essentiellement de... Le bloc principal suffit, parce qu'on se ramène assez facilement au bloc... Ah, j'ai oublié de dire quelle est cette action. Alors, sur la cohomologie de la Grassmannienne, le groupe de Weyl affine peut agir d'une variété de drapeau affine peut agir de deux façons. Il y a ce qu'on appelle l'action à gauche et l'action à droite. L'action à gauche vient du fait que l'espace est homogène sous l'action de G2K. Et donc, essentiellement, ça entraîne à peu de choses près que le groupe de Weyl ou des versions agissent sur la cohomologie de la fibre de Springer. C'est lié à l'action à gauche. Après, il y a ce qu'on appelle l'action à droite, qui est une action genre Springer, qui est plus compliquée à obtenir. Ici, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'action à gauche. D'accord. C'est l'action qui vient de la translation à gauche d'éléments bien choisis, quoi, sur la grâce pleinienne, parce que c'est un espace homogène. Disons que, dedans, il y a deux parties. Il y a le réseau, il y a W et le réseau. Pour avoir le réseau, on prend T de K, ou T de KL, ici. Donc T de KL agit ici. Tu prends le pi 0 de ça. Ça s'identifie à L de lambda tchèche. Et donc T de KL agit sur le 1 de schéma, donc le pi 0 agit sur la cohomologie. Donc ça te donne cette partie-là, à l'intérieur. Et le groupe de Weyl de type fini, c'est plus compliqué, c'est pas complètement évident. Ça vient de la description de ça comme GKM. C'est une description combinatoire. C'est-à-dire que la cohomologie de ça, tu la plonges dans ce que j'écris là. Et là-dessus, tu peux voir que ça va être des U-plets de polynômes.
C'est pas la même chose
dans le
sens
de Youn. Quoi de Youn? Oui, ça dépend, parce qu'il a fait beaucoup de choses, quoi. C'est relié, oui. C'est le même genre d'action. C'est le même genre d'action. Mais c'est pas la... Oui. Disons qu'il n'y a pas besoin du truc de Youn pour faire ça, mais c'est la même action, oui. Ça, c'est vrai.
Puis je ne comprends pas pourquoi à droite, il n'y a pas des grands gamma, et à gauche, il y a un gamma.
Attends, qu'est-ce que tu appelles à droite et à gauche? Où? Là, tu veux dire? À droite, ici. Non, ça c'est un point important. Ça veut dire que d'une certaine façon, le petit groupe quantique... je vais expliquer. Il y a des relations, ça remonte à tous les travaux de Bezukhanov-Kutokov, entre le grand groupe quantique et les faisceaux constructibles sur la grâce pleinienne infime. D'une certaine façon, le petit groupe quantique, lui, est relié non pas à la grâce pleinienne infime, mais à la fibre de Springer particulière dans la grâce pleinienne infime, pour un élément bien choisi qui est gamma.
Comment
tu construis gamma? Et gamma, c'est ça, S tenseur TL, T, où S est un élément semi-simple régulier. Ça, c'est un élément topologiquement nilpotent, régulier, split, il n'est pas elliptique, mais... Donc ça, ce n'est pas de dimension finie, mais quand je prends les invariants, ça devient de dimension finie. Et à vrai dire, et on peut être plus précis de ça, il y a des travaux après, des travaux récents, non encore publiés, de Bezukhanov-Kutokov, où il a rendu ça, je pourrais dire, juste un mot à la fin. C'est-à-dire que le petit groupe quantique est une façon de se géométrise avec la fibre de Springer, alors que le gros groupe quantique se géométrise avec la grâce pleinienne infime. Je dirais un petit mot juste rapide à la fin. D'accord. Mais pourquoi avec cet élément gamma, ça, je ne suis pas capable de répondre. C'est comme ça. Alors, je vais juste... il y a plusieurs façons de... il y a deux flèches ici. Ce que j'appelle A et B. Il se trouve que les flèches ici, A et B... La situation change un petit peu, ne sont pas construites de la même façon. Je manque de temps, je vais juste expliquer très rapidement une approche de faire pour construire A. Alors, ce n'est pas l'approche qu'on a... une approche pour A. Donc ça, ce n'est pas celle que l'on a utilisée, parce que celle-là, c'est une approche celle que je vais indiquer, qui utilise, en gros, plein de résultats de Bezukhanov-Kutokov et quand on veut l'écrire proprement, c'est compliqué. Et donc, on a utilisé une approche un peu plus technique, qui n'est pas celle-là. Disons que celle-là a l'avantage d'être... Elle se décrit de façon peut-être plus agréable. Mais nous, on est passé par on n'a pas vraiment raisonné comme ça. On a plutôt raisonné sur... la cohomologie de Grassmannienne a été décrite... Et cohérente a été décrite par Bezukhanov-Kutokov et Fickelberg en 08. Donc, c'est tout simplement, ils ont dit que c'est une algèbre commutative, ils ont calculé son spectre, ils ont dit que c'est C sur une algèbre et ici une variété. Et là, c'est un blow-up, c'est un éclatement particulier. Et on a nous, pour démontrer le construire A, on a utilisé ça plus une description du centre du groupe quantique via le morphisme de ce qu'on appelle de Harishchandra. Harishchandra, description du centre. Mais là, je manque un peu de temps. Alors, je vais juste donner une autre approche qui est peut-être plus conceptuelle, mais plus compliquée à mettre en œuvre. Et je vais le faire dans le cas du bloc principal. Donc, le morphisme qui nous intéresse dans le cas du bloc principal, on veut juste construire un morphisme. Donc, je fais oméga égale à 0. Donc, on veut construire un morphisme qui arrive dans Z de Uzeta de Gchech. C'est ça que l'on cherche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est inclus dans Z de Uzeta inter Uzeta de Gchech. Et donc ce que l'on va construire, c'est un morphisme comme ça. On construit un morphisme comme ça et après il faut vérifier qu'en fait il arrive dans l'objet plus petit, mais je vais expliquer cette flèche-là rapidement. Alors, donc, on part de la cohomologie de la variété drapeau infime, FL. Donc, c'est le bloc principal, c'est celle qui n'est pas partielle. Alors, on sait que la cohomologie est pure. Donc, on peut, par pureté, donc on peut se placer, on peut écrire la cohomologie LADIC, pure, pureté. Donc, ça veut dire que je considère une catégorie de faisceaux constructibles sur la variété de drapeau affine. Et dans cette catégorie, donc ça va être la catégorie de DB M IW FL ID et ID. Donc ça, on prend des faisceaux constructifs sur la variété drapeau affine. M, c'est pour mixte, donc on est dans le cadre LADIC, on prend les faisceaux mixtes, et il y a une condition d'invariance, on appelle ça, c'est Iwari-Whittaker. Donc ce sont des fonctions qui, sous l'action du groupe du radical unipotent du groupe d'Iwari, se comportent avec un certain caractère non dégénéré, Iwari-Whittaker. Et comme la cohomologie est pure, quand je translate le degré ici, donc ça correspond à un shift dans la cohomologie et on a le shift de tête correspondant à cause de la pureté. D'accord. Ensuite, cette catégorie-là, ici, d'après des résultats de Bezrukhannikov, elle est équivalente à une autre catégorie au sens de Kozul et une équivalence de Kozul. Et donc je vais décrire donc de faisceau sur la Grassmannienne. Donc là, id, c'est le facteur identité. Quand j'ai un groupe de cohomologie, il agit sur un faisceau et ça fait une transformée. Et là, c'est l'identité qui est shiftée par... C'est juste le facteur de shift dégradé. Le shift dans la cohomologie, le shift de tête. Et là, ici, donc, on arrive dans la catégorie des faisceaux mixtes. Et donc, on fait des faisceaux qui sont invariants sur le radical unipotent, du pro-unipotent de Liwaori et sur la Grassmannienne. Et là, c'est une équivalence de Kozul, elle va perturber les shifts. Et donc, ici, on a l'identité. Et là, on récupère l'identité. Donc, point, quand j'ai point, c'est le degré ici, ça shift par ça, et ici, ça shift par ça. Le point important, c'est qu'ici, il n'y a plus de chiffre cohomologique, il y a juste un chiffre de tête. Et donc, si maintenant j'oublie, je vais de la catégorie mixte vers la catégorie non mixte, j'oublie la structure mixte. Il y a un facteur de forgetful de la structure mixte. Donc ça devient l'identité. Forget la structure mixte. Donc ça devient homme de l'identité dans la catégorie des faisceaux DB I radical de Greux. Donc c'est l'identité, c'est le centre. L'endomorphisme de l'identité, donc ça, c'est le centre de cette catégorie. Et maintenant, un papier de Bezokhannikov, Arkhipov, Getzgori, d'il y a une vingtaine d'années, démontre que cette catégorie-là est équivalente à la catégorie de représentation du groupe quantique. Donc ça, c'est Z, UZ. Et donc là, on a construit une application. D'accord. Alors, comme j'ai dit, ça, c'est moralement ce qui devrait se passer, quoi. Bon, mais bon, quand on veut tout écrire en détail, c'est compliqué, quoi. Notamment vérifier que c'est contenu là-dedans. Il y a des complications. Donc, on fait pas ça comme ça. C'est juste pour donner une petite idée du genre de techniques qui interviennent dans ces constructions-là. Ok, à vrai dire, je suis déjà un petit peu en retard. Donc,
pour les questions.
Et le gamma, parce que là, il n'y a pas encore de gamma dans ce texte.
Non. Alors, non, et après, ici, tu fais la restriction au point fixe, h.fl de gamma, et il faut vérifier que le morphisme se factorise encore. Oui. Non, il y a du travail. Ce que j'ai donné, c'est juste un petit bout qui donne une petite idée de comment se construit le morphisme. Mais après, pour construire le diagramme, c'est compliqué. Et alors, je peux juste dire un mot, si vous voulez. Ce que je disais tout à l'heure, pour répondre à ta question, c'est... Donc là, il y a une équivalence entre la catégorie de représentation, ce que j'ai noté REP, de UZ, et les faisceaux pervers là-dessus. Invariant sur la Grassmannienne. Ça, c'est ABG. Et si tu veux... Donc ça, c'est le groupe quantique SA. Et ce que démontre dans un travail qui n'est pas encore écrit de Bezokhannikov et Youn et d'autres personnes, c'est qu'il démontre que la catégorie des modules gradués, alors comme je le définis, donc c'est les modules Landachech gradués, hein, c'est du petit groupe quantique, c'est une catégorie de faisceaux micro-locaux, de faisceaux pervers micro-locaux, donc SH, perle, sur la fibre de Springer. Donc l'idée, c'est que c'est comme pour la résolution de Springer, T star de G sur B, sur le conipotent, quand tu prends une fibre de Springer, ça c'est synthétique, cela fait un Lagrangien, et dessus il y a une notion de faisceaux micro-locaux. Eh bien ici, ils définissent une faisceau de micro-locaux dans le cas de fibres de Springer affines, et ils démontrent une équivalence de catégorie dans ce sens-là. Mais même avec ça, il n'y a pas moyen de vérifier l'énoncé sur le centre. Ça explique un petit peu, ça n'explique pas pourquoi gamma, ça explique juste, c'est un peu plus catégorique que l'énoncé sur le centre, mais même avec ça, on n'arrive pas à démontrer l'égalité sur le centre, la surjectivité. Tu veux dire classique, tu penses quoi, gros?
Je prends garde classique.
Bah, je voudrais dire, oui, est-ce qu'il y a une fibre de Springer classique qui aura un énoncé en termes, ça correspondra à un centre ou un truc de ce genre-là, c'est ça? Là, je sais pas. Un énoncé de ce style-là où on prend des fibres de Springer de type fini et pas affine, je vois pas vraiment, ouais, je sais pas. Alors, écoute, pour le centre, je ne sais pas. Et je sais que, alors je discute, quand tu vois ce genre d'énoncé-là, je sais que Romain Mad m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à le faire pour TS sur T au carré, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut mettre ici, enfin c'est mal compris, quoi. C'est mal compris. C'est-à-dire qu'ils peuvent définir une catégorie de faisceaux micro-locaux ici, ils ont une bonne catégorie qui est bien définie pour d'autres gamma, mais la question c'est quelle est l'algèbre qui pourrait être derrière? C'est pas compris, ça, par contre.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.